Bonne fin de soirée à nos deux Nantais, Gaël Le Gallic et Stéphane Grand, et à très bientôt.
France Musique.
À l'improviste, aime bien s'improviser de temps à autre. Alors, plutôt que de s'élaborer autour de la musique, jouée au concert par tel ou tel improvisateur, l'émission d'aujourd'hui va s'offrir comme un portrait. Le portrait d'un lieu plus que d'un musicien. À l'improviste vous emmène ce soir entre Abbesse et Blanche, dans le 18e arrondissement parisien, dans une galerie où la musique s'invite pour danser avec gravure, encre ou dessin.
À l'improviste. Anne Montaron.
Il se passe des choses dans cette galerie. Nous sommes ce soir dans les murs de la galerie Husse, nichée dans le bas de la rue Aristide Bruand, au pied de Montmartre. Des galeries à Montmartre, il y en a de toutes sortes. Celle-ci a la particularité d'attirer et les amateurs d'art et les mélomanes. L'idée d'accueillir la musique dans les murs de la galerie a germé dans la tête des galeristes Tristan Cormier et Sophie Renaud il y a 4 ans, et de façon presque naturelle. Elle correspondait tout simplement à leur vision décloisonnée de l'expression artistique. En 4 ans, la galerie Husse est devenue l'un de ces lieux atypiques de Paris où l'on aime revenir, non seulement pour savourer justement ce jeu de correspondance entre les expressions, mais aussi parce que la programmation y est exigeante et sensible, tout entière tournée vers la création. Parce qu'elle associe aussi l'improvisation et l'écriture, sans avoir envie de les séparer ou de les opposer, et aussi parce qu'elle associe les mots et même la danse. Et puis, la galerie Husse, c'est une façon d'envisager le concert qui tranche avec les pratiques courantes. Les choses s'installent et se déroulent très simplement, très spontanément. Le lien, la relation qui s'établit entre celui ou celle qui joue la musique et ceux qui l'écoutent donne au rituel du concert une toute autre dimension.
Le problème de la galerie, c'est que c'est souvent un lieu un peu mort, où les peintures sont au mur, on se rapporte seul à la peinture, donc pendant la plupart du temps, il ne s'y passe rien. Et finalement, la musique réunit et fait un peu vibrer et dispose à voir mieux.
Thank you.
Alors, de quoi est faite la galerie, là, en ce moment ?
En ce moment, ce qui se prépare, c'est une exposition de Joseph Nadge, principalement de photogrammes. La difficulté, c'est de réussir à les présenter, à écrire quelque chose. Alors, quand ce sera prêt, je pourrai annoncer une date d'exposition. Je l'ai mis à côté d'une gravure de Bram van Velde. Je crois que celle-là, elle est là depuis 3 ans. Elle se déplace. Et j'ai toujours trouvé que cette gravure était comme un autoportrait de François Tanguy. Comme ses tentes, avec un espace décentré. Alors à l'entrée, il y a toujours d'un côté une chose de Vols, et puis de l'autre une chose de Fautrier, qui sont un peu les pères. Qui curieusement, dans les histoires de l'art abstrait, écrites après la guerre, sont toujours situées dans les marges. Et curieusement, s'ils avaient été au centre, on aurait peut-être une autre histoire de l'art. Bram van Velde, Fautrier, Vols, il y en aurait quelques autres, peut-être Dubuffet, Michaud, peut-être qu'ils sont mieux les dépositaires de l'histoire que ceux qui ont fait de la peinture, simplement. Alors voilà, cette galerie, elle se construit à partir d'eux et puis de leur descendance.
Pêle-mêle et dans le désordre, voici quelques noms de musiciens et artistes invités ces derniers temps par la galerie. Benjamin Duboc, Pascal Conté, Sylvain Cassap, Steve Dalachinsky, Marc Ducré, Donatienne Michel Dansac, Jeanne-Marie Conquer, Noémie Boutin et quelques autres. Les musiques de Ligeti, de Bach, de Courtag et de Pascal Criton ont également résonné dans les murs de cette galerie à plusieurs reprises.
Quand j'ai ouvert, j'ai invité Joël Léandre à jouer. Et elle a joué à côté d'une gravure de John Cage. Et d'un coup, la musique s'est mise à prendre une place qui n'était pas prévue. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de projet de galerie. Il y avait simplement un projet d'ouvrir un lieu un peu plus identifié pour réunir un peu plus de gens.
Thank you.
La première exposition ici, c'était In No Progress. C'était sur la question du trait, du trait brut. Comme chez tout artiste, il y a un geste qui est antérieur au projet, même à l'intention de faire quelque chose, de faire œuvre, et que dans le dessin en particulier, une feuille de papier, un crayon, c'est un peu le premier état du geste artistique.
Est-ce que c'est pour ça que tu t'intéresses à l'improvisation musicale comme premier geste ?
Il y a sans doute des liens, et c'est vrai que peut-être que c'est quelque chose que j'ai réalisé assez nettement avec Joël Léandre. Ce qui est sûr, c'est que si on met sur un mur ces états du geste d'artistes qui, par ailleurs, n'ont pas grand-chose à voir dans leur œuvre accomplie, on trouve des familiarités qui nous ramènent à des questions qui sont peut-être pour moi plus fondamentales que celles, c'est-à-dire la capacité par exemple d'un simple trait à porter l'histoire. En fait, je pense que j'ai eu une révélation dans une grotte devant... Je ne sais pas si ça s'est passé dans cette grotte ou devant des images de dessins dans ces grottes, mais enfin, ça s'est passé à peu près en même temps, d'avoir affaire au premier état entièrement accompli d'une expression qui n'avait pas de langage qui lui soit contemporain, et qui était comme préservé du langage. Et se trouver face au dessin dans une grotte, c'est un peu comme se trouver face à un autiste, c'est-à-dire une forme totale de l'intelligence, mais à laquelle on n'accède pas par les voies habituelles du langage. Et j'ai trouvé là un paradigme de mon rapport à l'art, et d'une espèce de différence qui ensuite devient entre l'écriture, la musique, et que fondamentalement, il n'y a pas de rapport entre ces arts, mais qu'on peut quand même les faire jouer ensemble. Thank you.
À la Galerie Huss, les musiciens qui ont une activité de plasticien sont accueillis avec autant d'enthousiasme par Tristan Cormier, le galeriste, que les plasticiens qui s'intéressent à la musique. En 2011, la Galerie Huss expose les dessins et gravures de Wolfs, artiste berlinois de la première moitié du XXe siècle, qui était à la fois, justement, musicien, mécanicien, photographe, graveur et peintre. L'idée d'organiser tout un cycle de concerts et de performances autour des dessins et gravures de Wolfs s'impose très vite. La première étape de ce cycle a été confiée à la contrebassiste Joëlle Léandre, qui a composé 12 miniatures inspirées de 12 gravures de Wolfs. Les étapes à venir associeront la danse avec Joseph Nadj et les mots avec le metteur en scène François Tanguy.
Joëlle Léandre, c'est un peu comme faire le tour de la Terre à une certaine hauteur et entendre les musiques du monde avec leur transformation progressive d'une géographie à l'autre. Alors il faut savoir que Wolfs était violoniste, et que chez lui il y a un va-et-vient qui n'a jamais cessé entre le travail du violon et celui du dessin et de la gravure. Et ensuite c'est passé au banjo, donc c'est un peu différent, mais enfin c'est toujours un instrument à cordes, et que entre le geste, disons, de l'incision d'une plaque et le travail de la gravure et le bruit qu'on trouve dans l'ancrage du fond d'une feuille, et puis un archet sur une contrebasse et ce qui résonne dans la contrebasse, il y a une espèce de ressemblance qui permettait de faire le pari qu'en renouvelant l'expérience 12 fois, avec 12 gravures et puis 12 pièces, on toucherait un endroit où se passe cette circulation et sans chercher à illustrer, évidemment. Et de fait, je crois que l'expérience a été convaincante.
En même temps que Tristan Cormier réfléchit aux étapes à venir de ce Wolfs Circus autour de l'œuvre et de la pensée de ce plasticien musicien, il est en train de tirer un autre fil qui relierait expression musicale, dessin et littérature. Ces correspondances, elles existent dans l'œuvre du compositeur et pianiste hongrois György Kurtág. En décembre 2013, Tristan Cormier assiste à un concert de György Kurtág et Martha Kurtág à la Cité de la Musique à Paris. Au programme les Yattecoques ou Jeux, un ensemble de miniatures destinées aux enfants.
Thank you.
fin de ce concert, au troisième bis, Martha et Georgie se sont mis à chercher une partition, à aller autour du piano, retournant les piles. Et puis ça devenait du théâtre, sans que personne ne l'ait voulu, ni eux-mêmes, ni... Mais ça a duré assez longtemps pour qu'on change d'espace, pour qu'on change d'espèce de perception, et qu'on réalise que leur manière d'être là, elle était à la fois absolument présente, drôle, et puis aussi, quand on les voit marcher, par exemple, vers le piano ou quittant le piano, dans l'accord des pas, on trouve un ajustement qui est à peu près égal à celui qu'on retrouve quand ils jouent de la musique. Et ben voilà, c'est un indice d'une présence à la musique qu'on aimerait bien trouver plus souvent. Assez récemment, avec Courtag, j'ai compris ce qui peut sembler presque rien, mais qu'est-ce que c'est qu'un do ? Qu'est-ce que c'est qu'un do ? Finalement, c'est pas très éloigné du geste juste, disons un do senti. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire sonner ce do à l'endroit où il parle. C'est-à-dire que c'est des années et des années d'attention, de déguisement de la perception qui amène un geste artistique, un trait, à se poser à l'endroit précis où il porte quelque chose et qui le différencie d'un trait vide. Je pense à Paul Klee qui disait que finalement pour quelqu'un qui voit un tableau il est un peu conduit à rebours vers le temps de la jeunesse du tableau. Et ce temps-là, c'est un temps où l'artiste n'est pas particulièrement occupé à peindre. C'est un temps où quelque chose se prépare, où on étend du verre, où tout se met... C'est la vie entière en fait qui amène aussi bien à poser son dos. Thank you.
Courtag dessine.
Alors Courtag dessine, c'est très particulier. Il dessine, disons qu'il essaie de... je crois qu'il a surtout dessiné quand il n'arrivait pas à écrire sa musique, qu'il essayait d'éprouver son sentiment d'être là en renouvelant de façon de désespérée et angoissée un même geste qui la plupart du temps n'arrivait à rien, mais qu'il renouvelait ce geste sans fin, je pense pendant des mois.
Il les a déjà révélés au public, ces dessins ?
Moi, je crois qu'il les a montrés une fois. Est-ce que c'était à Caen ou à Rouen ou, j'ai pas vu l'exposition, ça devait être il y a une dizaine d'années. Pour l'instant, ils sont dans cette boîte de crise à la Fondation Zacher. Et cette petite boîte. Mmh. Alors, parmi elles, il y a quelque chose à quoi je m'attendais pas du tout. Un ensemble de papiers déchirés qui sont comme un théâtre d'ombre, par des petites échelles, des petits soleils, comme un homme sur un âne. On pourrait construire, disons, il y a la matière potentielle pour des tas de contes. Et à cet endroit, le geste est beaucoup plus précis, plastiquement, que... avec un crayon.
Tu as pu en parler avec lui ?
De ces papiers déchirés, non. De cette idée d'exposition... D'ailleurs, il ne s'agit pas vraiment d'exposition, il s'agit plutôt de lui donner un temps un peu sur un mode, disons, initiatique, et qui s'étend dans la durée, à travers des concerts parfois concentrés, plusieurs en quelques jours, et puis périodiquement. Par exemple, de faire de Yatekok, qui est un peu une philosophie de la musique, quelque chose qui soit intégré à la manière de présenter les choses de la galerie, alors de manière pas forcément visible, mais qui donne lieu de temps à autre à des sessions avec des pianistes et des enfants, à des concerts. Voilà.
Thank you.
Est-ce que justement, ce public de mélomanes, t'as déjà acheté des tableaux ? Où il y a déjà eu des révélations et des personnes qui sont venues vers toi en disant « Mais je ne pourrais plus entendre de la musique que comme ça, dans ces conditions. »
Je pense qu'il y a des révélations lentes. Il se trouve que, disons, que les expositions donnent un cadre un peu permanent, d'autant que les expositions sont longues, parfois un an. Donc, d'une fois sur l'autre, on retrouve les mêmes tableaux avec des musiciens et des programmes différents. Alors ça fait sans doute varier les angles de rapport à ces mêmes choses, et que à force d'avoir la même peinture sous les yeux, on finit peut-être déjà par arriver à un temps qui est celui de la peinture, et peut-être de la voir. J'espère que c'est arrivé, mais on ne sait pas non plus à quel endroit une peinture se met à parler pour quelqu'un. Voilà.
France Musique.
Alors à quel endroit de notre cerveau, justement, de notre sensibilité, une toile, une encre ou un dessin peuvent-ils bien nous toucher ? Cette question-là, on pourrait la poser au plasticien Albert Hirsch, dont certaines encres sont exposées à la Galerie Huss en ce moment. Ce plasticien, autrefois ami du poète René Char, avec lequel il a conçu des décors et costumes de ballet, assiste à la plupart des concerts de la Galerie Huss. Lui-même entretient depuis toujours une relation très profonde à la musique.
Moi, j'ai trouvé très intéressant la démarche de Tristan et de Sophie Cormier, les fondateurs de la galerie, là, de donner une vocation multiple, quoi. Donner à voir et puis donner à entendre, quoi. Donc, si vous voulez amener une approche serrée, quoi, entre l'espace plastique et l'espace sonore, quoi. Donc,
c'est une chose qui vous est familière, parce que je crois que des musiciens de jazz ont joué autour de vos sculptures.
Oui, d'ailleurs, au départ, le premier nom qui me vient à la bouche, c'est Steve Lacy. Steve Lacy qui est venu jouer dans les expositions et d'une façon magistrale, quoi, qui a captivé le public aussi bien pour le son que pour la vision.
Steve Lacy, Steve Potts aussi, je crois.
Oui, Steve Potts, tout à fait. Steve Potts, il y a eu, malheureusement, quand Steve Lacy est décédé, on a fait un événement dans les jardins du Sénat, et Steve Potts avait participé avec les danseurs de Guiséric Spiolet et Paré. Et puis, il y avait toute une. Il y avait des poètes, Benamou, Maurice Benamou, enfin, disons des gens qui étaient concernés par toutes ces disciplines, quoi. Je travaille en musique, j'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de musique contemporaine. Enfin, pas la musique dans mon travail ne représente pas une musique d'ameublement, mais ce sont les murs sonores, enfin, en quelque sorte. Et c'est des fois même le fil conducteur de mon travail. Donc j'écoute beaucoup de musique, oui.
Elle peut être source d'inspiration ou pas directement?
Ah justement, oui, tout à fait. Ça, je dirais que ça dégénère et ça revient dans mon travail d'une façon tout à fait efficiente, quoi. Les premiers sons qui arrivent dans mon atelier sont souvent des sons de saxophone, je dois dire. Le saxophone, il y a tellement de grands artistes qui ont donné leur voix au saxophone. Enfin, on peut parler de Bechet, on peut parler de Coltrane, on peut parler de Charlie Parker. Ce sont des gens essentiels.
Vous avez dédié une de vos sculptures, je crois, à Coltrane.
Tout à fait. C'est-à-dire lorsque j'avais appris la mort de John Coltrane en 67, j'ai passé une année à élaborer une sculpture qui soit dédiée. C'est un cuivre repoussé que j'ai travaillé durant une année complète.
Donc, quand vous travaillez, il y a les sons que vous produisez-vous?
Ah oui, il y a cela, bien sûr, parce que
Les sons du saxophone aussi.
Oui, des saxophones, les pianos. Le piano m'accompagne souvent. Mais beaucoup la radio, beaucoup de musique contemporaine que je ne connais pas. Ce qui fait que, en même temps, j'ouvre mes oreilles et en même temps, c'est une nourriture, une véritable nourriture qui n'est pas du tout. Qui ne me gêne pas du tout, au contraire. Il y a une espèce mon champ de travail s'agrandit, quoi. C'est la musique fonctionne vraiment dans le travail. Et je ne sais pas si ça plaît aux compositeurs, mais disons que le résultat est là chez moi.
En 1967, Albert Hirsch dédiait sa sculpture Africa à la mémoire de John Coltrane. Plus de 30 ans plus tard, sa sculpture pour bois et acier Sacre se souvenait d'un autre grand musicien, Igor Stravinsky.
J'ai régulièrement rendu hommage à des musiciens, bien sûr, à des danseurs et des poètes. Et je tenais absolument à rendre par mon travail, un hommage à Stravinsky que j'admire profondément depuis que je suis gosse. Et je me souviens qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, avec mes grands amis qui étaient Georges Pludermacher, nous arrivions et nous sifflions ou chantions quatre notes et l'autre répondait et moi je continuais et on arrivait à la danse sacrale, voilà, enfin bon, voilà. Donc si vous voulez, je trouve justement Stravinsky un des compositeurs les plus plastiques, les plus proches des arts plastiques. On pourrait, ça lui plairait peut-être pas forcément, mais il y a quand même énormément d'images qui sortent de sa musique. Voilà. Et d'élan, enfin, de dynamisme, enfin bon, voilà.
La galerie Hus a sa mascotte, la petite Lucie, postée juste à l'entrée de la galerie les soirs de concert. Lucie n'a pas la langue dans sa poche, sauf lorsqu'un micro s'approche.
Tu es là, près de la porte d'entrée, tu accueilles les gens et ils te donnent 10 euros. C'est l'entrée.
Oui, c'est ça.
Tu leur dis un grand bonjour.
Oui, et puis je leur demande de payer.
Et tu en reconnais ? Il y en a qui viennent souvent ?
Oh oui, j'en connais beaucoup qui viennent.
Et tu restes toujours jusqu'au bout ?
Tout le temps.
Parmi les fidèles des concerts de la Galerie Hus, Lucie a par exemple sans doute reconnu la metteuse en scène Martine Venturelli, qui se retrouve pleinement dans les projets de la Galerie Hus et dont le travail associe régulièrement les mots, les corps, l'espace et les sons.
En fait, moi c'est la musique qui a sauvé ma vie. Elle a tellement sauvé ma vie que j'ai fait une formation de musicothérapeute à un moment donné. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années avec des autistes. Et puis je suis revenue de ce travail à un moment donné, j'avais envie de faire autre chose. Et puis des gens m'ont rencontré, le pulse s'est reconstitué. Et je me suis trouvée à faire un atelier de recherche théâtrale au départ. Je n'avais pas l'intention de faire autre chose que de la recherche. Et puis des gens sont venus et puis m'ont dit que ce que je faisais, il fallait le sortir et le montrer. Voilà, et puis je me suis retrouvée à sortir un projet, puis un deuxième, puis un troisième. Mais c'est vrai que la musique a beaucoup d'importance dans mon travail. les concerts auxquels j'essaie de toujours venir, mais parce que ça fait des années que c'est quelqu'un important pour moi, c'est Joël Léandre. Et puis le concert de ce soir est très beau parce que ce qui me plaît, c'est le rapport à l'objet sonore avant même de faire de la musique. C'est l'exploration, c'est jouer avec plutôt que de jouer d'eux. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est comme revenir à l'origine d'un rapport qu'on peut avoir avec un instrument. Il y a aussi quelqu'un d'autre que je n'ai pas rencontré ici, mais qui fait un travail semblable, qui est un saxophoniste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Luc Guyonnet.
Oui.
Et toutes ces démarches-là m'intéressent. Et puis je travaille moi-même avec des objets qui font du son et qui n'est pas forcément une tentation de faire de la musique contemporaine, mais plutôt d'explorer ce que peut être le son au théâtre, à la fois le son des corps, le son de tout ce qui va constituer le plancher, les matériaux qui sont autour, etc. Dans ce travail qui va être une exploration d'abord du lieu en tant qu'espace sonore. D'une part, je travaille avec le GMEA d'Albi.
Oui.
Voilà. Et il y a tout un travail de cette exploration du son par des très grandes armoires en fer qu'on a customisées un peu avec l'idée de Cage, avec des grandes cordes de contrebasse. Et on joue avec les archers sur cette armoire, dans tous les sens du terme, dans tous les sons métal. Et cette exploration de cet objet. Mais tout ça, je le dois à Joël. Mais j'habite avec elle, j'habite avec sa musique. Oui.
Le prochain événement à la galerie Huss a lieu demain à 18h30. La galerie accueillera la pharmacie des mots autour de la poésie de Morten Zondergaard, une idée du projet Bloom dont Tristan Cormier fait partie et qui se définit comme une entreprise collective d'excitation artistique. Là aussi, différentes expressions artistiques, la musique, le théâtre et les arts visuels convergent ou dialoguent de façon à faire éclater les cloisons. Enfin, l'improviste vous offrira le mois prochain un deuxième volet sur la galerie Huss à la faveur d'un concert donné dans ses murs le 11 janvier dernier par le guitariste Marc Ducré. Cette émission se referme, elle a été réalisée comme toutes les semaines par Françoise Cordet, avec la collaboration de Benjamin Vignal, Soizic Noël et Pierre Quintard. Il est minuit et nos programmes de nuit maintenant vous ouvrent grand leurs bras.